Chapitre 37. Le violon que Hans avait rapporté de chez ses parents agissait comme un talisman. Il était presque inexplicable d'entendre ses progrès, si flagrants de jour en jour. Hans, sans partition d'aucune sorte, sans disque à sa portée, sans rien d'autre que ses mains, parvenait à apprendre la musique. Parfois, quand elle le regardait jouer, assise sur le pont du voilier, Amanda songeait que l'instrument était enchanté et qu'il enseignait directement à Hans tout ce qu'il avait en mémoire, dans ses cordes et dans son bois. D'autres fois, elle se disait que Hans était en train de subir une métamorphose pour laquelle il était destiné. Il devenait musicien, comme d'autres devenaient crapauds ou écume sur la mer. D'autres fois encore, elle rêvait que c'était son amour pour elle qui le rendait invincible et lui donnait le pouvoir de réaliser tous ses désirs. Au bout de peu de temps, Hans demanda à Amanda de l'accompagner en chantant, et, utilisant elle aussi un savoir qu'elle n'avait jamais appris, elle en fut capable. La musique qu'ils improvisaient ne ressemblait à aucune autre. Quand ils se produisirent la première fois, on les crut indifféremment argentins, russes, andalous ou tziganes, car ils alternaient, avec une maîtrise qui les émerveillait eux-mêmes, les rythmes enfiévrés et les lentes complaintes, l'effervescence de la nuit et la mélancolie de l'aube. Amanda chantait toujours sur des syllabes vides de sens, qu'elle enchaînait comme les accents d'une langue lointaine, d'elle seule connue. Cet exercice ne lui demandait aucun effort, il lui plaisait plus que tout autre, car il faisait taire en elle toutes les voix et la laissait infiniment disponible pour la musique. Hans lui disait parfois en souriant qu'elle parlait la langue des sirènes, car il admirait ce simulacre dont il n'eût pas été capable. « N'as-tu jamais entendu une parole qui soit devenue un simple bruit ?» lui demandait-elle. Et c'est ainsi que Hans et Amanda devinrent des saltimbanques. Leurs concerts avaient lieu dans la rue, sur les places, au bord des plages, et attiraient un public irrégulier. Il leur arriva de jouer devant trois personnes maussades, mais aussi devant une foule nombreuse qui fit pleuvoir sur eux le vin doré du succès. Ils rentraient parfois avec leurs coffrets remplis en un seul soir, et Amanda imaginait alors le visage de bois gravé, étouffé de billets et de pièces au fond du coffre, qui tirait sa langue fourchue en maugréant des imprécations. Les nuits et les jours qui suivaient ces grands soirs avaient un parfum de luxe et d'éternité. Amanda se faisait offrir de nouvelles robes et des perles pour orner ses cheveux, et il laissait de généreux pourboires dans les restaurants où il ne travaillerait plus jamais. Il voyageait l'âme légère, toujours plus au sud, en rattrapant l'été. Leur équilibre naissait de leur vitesse, et dans ce monde où rien ne leur appartenait, ils volaient et flambaient le bonheur sans jamais rien prévoir, sans jamais rien regretter, avec l'innocence et la déraison propres aux enfants et aux très grands sages. « J'ai parfois l'impression que tu m'as appris à voler, » disait Amanda. « Tu as toujours su voler, » disait Hans. « On ne peut pas enseigner ces choses-là. » Et Amanda se souvenait de sa falaise natale, de ses mouettes, de ses cheveux emmêlés par le vent, et de sa chemise blanche qui gisait loin, si loin au-dessous d'elle.